Attention, attention, le podcast des petites frousses y contient des propos qui conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
Bienvenue au podcast Les petites frousses où on parle de phénomènes inexpliqués et de meurtres irrésolus. Ici Joannie et je suis avec Félix et Catherine.
Bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Aujourd'hui, je vous parle d'un cas qui est une suggestion d'une de nos auditrices sur Facebook. Elle s'appelle Mylène. Puis c'est Félix qui s'occupe des messages sur Facebook. Je délègue un peu. Puis il m'a dit « Ah, connais-tu cette histoire-là? » Puis j'ai dit « Non, je ne sais pas c'est quoi. » Mais ça l'a tout piqué ma curiosité quand j'ai commencé à faire mes recherches. Et je pense que vous allez très aimer ce genre d'histoire. Mes sources aujourd'hui, c'est Historic Mysteries, CTV News, The Guardian, Dyatlovpass.com, CDC, etc. Puis là, vous avez bien entendu Dyatlovpass,
oui.
Entièrement ça. Parce que beaucoup connaissent et sont passionnés par l'incident du col Dyatlov, un cas que nous avons exploré lors de notre deuxième saison. Pour ceux et celles qui sont moins familiers, l'incident du col Dyatlov est une tragédie qui a frappé 9 randonneurs soviétiques expérimentés en 1959. Tous les membres du groupe ont été retrouvés morts et ils semblaient avoir été confrontés à quelque chose qui les a poussés à fuir leur tente et à se disperser. Encore à ce jour, les théories proposées ne semblent pas répondre à toutes les questions. L'incident du col Dyatlov est loin d'être unique. Il existe un autre événement aussi étrange, sinon plus, qui a décimé presque entièrement un groupe de randonneurs en Sibérie en 1993. Parce que dans le cas dont je vais parler aujourd'hui, une femme a survécu et a raconté ce qu'il s'était passé à la police et n'en a plus jamais reparlé par la suite.
Pourquoi?
Parce qu'elle voulait pas. Vous m'excuserez aussi pour les potentielles erreurs dans les noms russes, hein? Je vais faire mon gros possible. Pas facile. Avec le premier que je vais nommer, là, ça, vous allez le savoir tout de suite. Bon.
Je suis prête, j'ouvre mes oreilles.
Le tout commence à la rivière Chnechne, en Sibérie, en Russie. Ça s'écrit S-N-E-Z-H-N-A-Y-A. J'ai écouté un podcast qui disait, puis c'était pas mal Chnechne.
Chnechne.
Ça, on dirait que j'éternue, mais c'est pas ça. Bon. Chnechne, ça signifie enneigé en russe et ça tire son nom de la fonte des neiges des montagnes de Kamar-Daban, dont provient la majeure partie de l'eau de cette rivière. S'étendant sur 173 km, la rivière rejoint le lac Baïkal. Ce lac cristallin est réputé pour être la plus grande réserve d'eau douce liquide sur Terre, en Ouh. Plus d'être le lac le plus profond du monde, Ouh. Avec des profondeurs dépassant les 1600 mètres. Le lac Baïkal est situé à proximité de la chaîne de montagnes Kamar-Daban. Les montagnes Kamar-Daban...
Tu te dévoues bien.
Je sais pas possible. Est l'une des plus anciennes montagnes de la planète et s'étend d'ouest en est sur plus de 350 km. Le 10 août 1993, un groupe de kayakeurs ukrainiens font la descente sur la rivière Chnechne. Lors d'un passage plus tranquille de la rivière Chnechne, l'un des membres du groupe nommé Alexander Kivinchnitsky, mon Dieu, c'était bon.
Hein? C'était délicieux.
C'était quand même bon. Prend le temps d'admirer la forêt pittoresque qui l'entoure. Puis il remarque quelque chose d'inhabituel à travers les arbres, une silhouette. Le touriste ukrainien avait presque l'impression d'halluciner. Il était peu probable de retrouver quelqu'un dans les environs, puisque la rivière se trouvait à un endroit si isolé de la montagne qu'il faudrait plusieurs jours de randonnée pour se rendre à cet endroit. En s'approchant doucement, toujours à bord de son kayak, Alexander réussit à distinguer la silhouette, presque cachée derrière un arbre. C'était celle d'une femme. Ses vêtements étaient couverts de sang séché.
Je pensais que tu allais me conter une histoire de Sasquatch pendant une seconde.
Non, non, non. Une femme Sasquatch?
Non, mais une silhouette, ça répète un Sasquatch.
Non.
Non genré.
Une bête.
C'était une bête bipède de type humain.
OK.
Mais Alexander a visé son groupe et ils ont rejoint la femme. Une fois plus près, les kayakeurs ont pu voir que la femme était très mal
les
en point.
Les kayakeurs ou les kayakistes?
Les kayakistes.
C'est des kayakistes?
Je pense, moi.
Ouais.
Ah!
Oh. Oh, parce que là, je sens qu'on va entendre kayakeur une couple de fois.
Ben, j'avais pas mal fait le tour des kayakeurs. Mais les kayakistes, ça sera kayakiste, pardon.
Mais
hein?
Je pense.
Oui, 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 oui.
Une chance qu'on est là, hein, pour non. te donner des conseils.
Moi, j'ai misé sur le russe. Yeah. Anglais, mais c'est pas cassé la tête. Donc, kayakiste, c'est réglé. Une fois plus près, les kayakistes ont pu voir que la femme était très mal en point. Elle avait l'air épuisée, son regard était vide et son visage dénué d'émotion. Le groupe a essayé d'en savoir plus sur elle et sur comment elle s'était retrouvée seule ici dans cette situation. Visiblement traumatisée, la femme leur a donné son nom, Valentina Utochenko. Puis, elle est devenue presque hystérique en tentant de raconter qu'elle avait fait partie d'une randonnée avec 6 autres personnes et qu'elle était la seule survivante. Choqués, les kayakistes ont transporté Valentina au poste de police le plus proche. Il faudra plusieurs années avant que Valentina, surnommée Valia, soit en mesure d'expliquer ce qui est arrivé à elle et son groupe durant cette randonnée. Mais là, je ne ferai pas attendre. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé.
Dans le fond, quand ils l'ont trouvée, elle ne leur a pas dit sur le champ?
Non.
Elle a dû dire certaines affaires qui est arrivée en
quelques
gros,
petits détails.
Ça commence comme dans ton ordre chronologique, c'est que là, étant trouvé, puis là, tu vas nous raconter
ce qui s'est passé, la randonnée, toutes les gens et compagnie.
De sa version des faits.
Oui, là, on repart dans l'ordre chronologique. J'ai fait une petite folie pour cet épisode-ci.
Oh. Moi, j'adore, c'est comme un film.
Mais oui. C'est ça. J'ai essayé de quoi.
Intéressant.
À l'été 1993, Ludmila Korovina, une guide d'alpinisme chevronnée de 41 ans, dirigeait un groupe de 6 randonneurs dans la planification d'une expédition pour explorer la chaîne de montagnes Khabar Baban. Le groupe était Ludmila Korovina, la leader du groupe, âgée de 41 ans, Alexander Sacha Krishin, âgé de 23 ans, mais je vais l'appeler Sacha, Tatiana Filipenko, âgée de 24 ans, Denis Shvadchkin, âgé de 19 ans, Victoria Zalesova, âgée de 16 ans, Timur Bapanov, âgé de 15 ans, et finalement, Valentina Utochenko, âgée de 17 ans.
Fait que c'est un groupe d'adolescents puis de jeunes adultes.
Le plus jeune a quand même 15 ans, là.
Ouais, c'est jeune.
Ludmila, la leader du groupe, était une instructrice de randonnée et une survivaliste expérimentée, considérée comme une maître par ses pairs. Elle était admirée pour sa rigueur et sa minutie durant la préparation, laissant peu de place au hasard. Ludmila avait la réputation d'être exigeante envers ses élèves, les poussant toujours à donner le meilleur d'eux-mêmes. Son dévouement sans faille envers eux a été bénéfique. Ces derniers la considéraient comme une excellente enseignante, leur inculquant confiance et compétences essentielles lors de leur randonnée. Chose qui leur serait grandement utile lors de leur randonnée dans les montagnes Khabar Baban, région que Ludmila connaissait très bien. Les montagnes étaient connues comme étant un lieu sûr pour la randonnée, surtout en été, malgré qu'il s'agirait d'une tâche laborieuse pour le groupe. Escalader les montagnes Khabar Baban était considéré comme ayant une difficulté de type 4. Je sais pas si...
C'était quand même assez difficile.
Quand même assez difficile.
C'est pas n'importe qui
je
peut aller faire
quoi,
ça.
Je sais pas c'est quoi le summum. J'aimerais pouvoir confirmer, là, mais il me semble ce que j'ai entendu dans mes souvenirs, c'est que le col d'Yatlov, la montagne qu'escaladait, la montagne Kolat, c'était un type 2.
Hein,
ou un type 3, là. Fait que, tu sais, Yatlov Pass, c'était moins dur, supposément.
OK.
Type 2 ou 3. Fait que là, c'est une type 4, c'est pas facile.
OK.
Les 6 élèves de Ludmila voulaient profiter de l'occasion pour prouver qu'ils étaient des randonneurs expérimentés. Les préparatifs ont duré plusieurs semaines, considérant que ce serait une expédition de plusieurs jours. Durant cette période, les membres du groupe ont développé des liens d'amitié profonds. Le 2 août 1993, les 7 randonneurs ont commencé leur voyage dans les montagnes. Au même moment, 2 autres groupes débutaient leur montée également. Ils participaient tous à quelque chose qui s'appelle le Turigada, qui est en fait des randonnées massives dans des forêts et dans des montagnes. Un des groupes était dirigé par la fille de Ludmila, puis elle s'appelait Natalia. Les 2 groupes, celui de Ludmila et de Natalia, devaient croiser leur chemin le 5 août, 3 jours après le début de l'expédition. La randonnée s'est initialement déroulée comme prévu. Les prévisions météorologiques annonçaient du beau temps pour toute la durée du voyage et le moral du groupe était bon. Le 4 août, après 2 jours de randonnée, le groupe a débuté sa descente. Ils avaient atteint le sommet plus tôt que prévu et ils avaient dépassé leurs attentes en termes de vitesse. C'est à ce moment que les choses se sont corsées. Les prévisions météorologiques se sont avérées fausses et une tempête de pluie s'est abattue sur eux. Même s'ils étaient munis d'imperméables, leur équipement et leurs vêtements étaient détrempés. Ralentis, épuisés par le poids supplémentaire et confrontés à un sol glissant à cause de la pluie, le groupe a pris la décision de faire une pause. Ludmila a jugé convenable que le groupe installe leur campement dans une zone exposée, même si une forêt située à seulement 4 km plus bas aurait été une option plus sûre. La raison pour laquelle les randonneurs ne sont pas descendus dans la forêt demeure un mystère. Plusieurs considèrent que cette décision de la part de Ludmila équivalait à une erreur de débutant.
C'est louche pour une expérimentée.
Ouais, puis qui connaît bien ces montagnes-là, pourquoi pas juste descendre un peu?
Mm-hmm.
Ce soir-là, le groupe n'a pas réussi à allumer un feu. Malgré toutes ces petites complications, tout le monde était de bonne humeur. La pluie faisait partie des facteurs imprévisibles durant ce type d'expédition. Oui, c'était désagréable d'avoir froid et d'être mouillé, mais ils devraient faire avec. Le lendemain, le 5 août, Ludmila a remarqué que de la neige avait tombé durant la nuit. Le groupe a finalement allumé un feu avec succès. Ils ont déjeuné tous ensemble avant de repartir pour la journée. Vers 11 heures, le groupe avait entamé leur randonnée. Sacha se tenait derrière lorsqu'il s'est soudainement mis à crier. Tout le monde s'est tourné pour le regarder et ils ont vu que Sacha avait de la mousse qui lui sortait de la bouche et du sang coulait de ses yeux et de ses oreilles.
Oh mon Dieu, je m'attendais comme vraiment pas à ça.
Sacha s'est effondré sur le sol en convulsant, puis est devenue immobile. L'une Mila, qui considérait presque Sacha comme son fils, s'est précipitée vers lui. L'une Mila était complètement désemparée en essayant en vain de faire reprendre conscience à Sacha. Elle a ordonné au groupe de continuer sans eux.
Ouais, mais tu sais, on va redescendre, là.
Il est en descente, anyway, là. Il remontait plus, là. Il avait déjà fait la...
Okay. Il avait déjà fait, ouais.
Et qu'il descendait.
Mais il me semble que moi, mon premier réflexe n'aurait pas été de dire au groupe de s'éloigner de l'instructeur principal.
Surtout s'il y en a un qui a clairement quelque chose, une genre de maladie qui est arrivée soudainement, il y en a peut-être un autre là, qui va pas tarder.
Mais moi, c'est plus, va falloir le descendre, il n'est pas capable, va falloir une autre paire de bras pour le descendre. C'est ça, je me suis dit.
Tout ça, c'est bizarre.
Ils n'ont pas eu le temps de se rendre bien loin avant d'entendre l'une Mila crier à son tour. Encore une fois, le groupe s'est tourné et a vu qu'elle présentait exactement les mêmes symptômes que Sacha. De la mousse sortait de sa bouche et du sang coulait de ses yeux et de son nez.
Hey.
L'une Mila s'est mise à trembler violemment et a fini par s'effondrer au-dessus de Sacha. Tatiana Filipenko fut la prochaine à être atteinte. Elle s'est mise à courir vers l'une Mila pour lui offrir son aide, puis elle s'est soudainement saisie la gorge avec ses deux mains, comme si elle avait du mal à respirer. Tatiana est tombée et a rampé jusqu'à un rocher sur lequel elle s'est frappée la tête jusqu'à ce qu'elle devienne immobile.
Hé, mon Dieu! Hey. Ils tombent comme des mouches.
Mais moi, là, j'ai comme l'impression là, que c'est un genre de gaz radioactif. Ils ont passé dedans, puis ou quelque chose dans le genre.
Ils ont passé dans le fiume?
Ouais, genre c'est vraiment random, mais je te jette ça de même. Là.
Parfait.
On verra plus tard.
On en garde des notes. Victoria et Timur, les deux plus jeunes du groupe, ont tenté de se sauver de cette menace invisible. Dans leur frénésie, ils ont déchiré leurs vêtements, puis sont tombés au sol en convulsions. Ils vomissaient du sang et se tenaient la gorge. Valentina a affirmé avoir tenté d'aider et de calmer Victoria, mais Victoria l'a mordu. Denis Fadjkin, lui, s'était caché derrière un rocher. Valentina a dit, pas à ce moment-là, mais par après, « Denis s'est caché derrière les rochers. Tatiana se cognait la tête contre une roche. Victoria et Timur sont devenus fous. » En réalisant qu'ils étaient les deux seuls survivants, Denis et Valentina se sont mis à courir pour s'éloigner de la scène horrible à laquelle ils venaient d'assister. Peu de temps après, c'était au tour de Denis de convulser et de s'effondrer. Dans l'espace de 10 minutes, Valentina a vu l'entièreté de son groupe mourir devant ses yeux.
C'est assez traumatisant.
Quand même.
On dirait que je m'attendais à tout sauf ça.
Ah.
Je m'attendais encore à un genre des possibilités que ce soit un Sasquatch, qu'on sache pas trop. Mais là, tout le monde a juste tombé comme des mouches. Ça avait l'air d'être comme soit extra contagieux, soit c'était dans l'air. Hein. C'est weird.
Mais c'est bizarre que ce soit la seule qui ait comme rien eu.
Réalisant qu'elle était maintenant seule, Valentina a continué à dévaler la montagne en courant, laissant ses amis derrière elle. Valentina ne disposait que d'une tente et des vêtements qu'elle portait à ce moment-là. Une fois suffisamment éloignée de la scène dont elle avait été témoin, Valentina s'est trouvée ce qui semblait être un endroit sécuritaire pour monter sa tente. Elle a réussi à s'endormir en attendant que la température se calme. Puis d'ailleurs, on se souvient que Natalia, la fille de l'une Mila, son groupe et elle, dans le fond, y devaient les rejoindre le 5 août. Natalia ne s'était pas sentie préoccupée lorsqu'elle est arrivée au point de rencontre et qu'elle a vu que le groupe de sa mère n'était pas encore là. Elle se disait qu'ils étaient 7 randonneurs en forme et expérimentés, puis qu'ils avaient sûrement été retardés pour une raison quelconque. Natalia et son groupe ont continué, sans les attendre.
OK. Fait que dans le fond, ils n'ont jamais pu sonner, mettons, l'alarme qu'ils étaient disparus ou ils n'étaient pas là.
Ouais. Puis de toute manière, le temps qu'ils se rendent en bas, ils se disent peut-être ils ont peut-être dépassé. Mais moi, je me dis, c'est quelque chose qu'on va discuter tantôt, là, mais pourquoi ils n'ont pas passé par le même chemin?
Ben, s'ils se rejoignaient, ils ont dû faire chacun comme un sommet ou quelque chose dans le genre.
Peut-être, ouais.
Tu sais, fait qu'il y avait des traits différents.
Des itinéraires différents.
Mm-hmm, c'est vrai.
Sinon, ils auraient fait tout ensemble.
Mais je pense pas qu'ils décollaient exactement au même moment. Il me semble qu'ils suivaient. Ils partaient le même jour, mais pas au même moment, je pense. Mais à moins qu'ils font un monde différent.
Ouais, ou ils font une genre de boucle.
Peut-être, c'est vrai. Lorsque Valentina s'est réveillée le matin du 6 août, elle a réalisé qu'elle était encore en vie et qu'elle aurait besoin de trouver des provisions si elle souhaitait survivre seule dans la nature. Valentina tenait à rester en vie et a raconté avoir pensé à ce qui arriverait à sa mère si elle ne s'en sortait pas. Une seule option s'offrait à elle. Valentina devrait retourner à l'endroit où tous ses amis étaient morts le jour précédent pour s'approvisionner.
Mmh.
Étant consciente qu'elle n'avait pas d'autre choix, Valentina a rebroussé chemin et a remonté la montagne. Une fois de retour à l'endroit où la catastrophe avait débuté, Valentina a remarqué qu'aucun de ses amis avait bougé, indiquant qu'il était bel et bien décédé. Elle s'est quand même assurée qu'aucun d'eux ne respirait, puis elle a rapidement rassemblé les items dont elle avait besoin pour le reste de son périple. Fait qu'elle a quand même dépouillé des gens décédés, ses amis.
Mais en même temps, c'était pour sa survie, elle n'avait pas aussi le choix.
Mais imagine comment c'est troublant. Vous avez passé énormément de temps ensemble, puis là, ils sont toutes mortes, t'es toute seule dans le bois, puis là, t'es prêt de leur enlever leur truc pour ta survie, là.
C'est sûr que...
C'est pas nice, mais en même temps, t'as pas le choix. Mais il semble que j'aurais eu peur, moi, de retourner les voir, admettons que c'est une maladie, comme tu disais, Kat.
Ben oui.
Les toucher, prendre leurs signes vitaux, puis tout ça, c'est...
Pendant 4 longs jours, Valentina a suivi les lignes électriques le long de la montagne dans l'espoir de croiser quelqu'un. Valentina se disait aussi qu'elle finirait peut-être par rencontrer le groupe de Natalia, mais non. À la fin de son 4e jour de marche, Alexander Kimchnitsky et son groupe de kayakistes avaient localisé et sauvé Valentina. Ce qu'ils ont vu en premier, en fait, c'est le sac de couchage de Valentina parce qu'il était de couleur vive. Mm-hmm. Fait qu'elle s'est servie de ça parce que c'était distingué des couleurs de la nature. Là.
Ouais.
C'est ça qu'ils ont vu en premier. Parce que, oh, il a vu une petite madame dans les arbres. Puis c'est là qu'ils l'ont sauvée. Quand elle a été retrouvée, Valentina était malade. Après tout ce temps dans le froid, son système devait être affaibli. Donc, des médicaments lui ont été prescrits. Puis j'ai lu que c'était des antibiotiques, fait que c'est même une petite infection, là. Je sais pas.
Okay.
Ça prendra 14 jours avant que la police commence les recherches officielles pour retrouver les corps des 6 randonneurs. Yurik Gulius était en charge de l'opération de recherche. Puisque Valentina était incapable de raconter sa version des événements à ce moment-là, les corps ont seulement été retrouvés le 26 août 1993 grâce à des hélicoptères qui ont survolé les montagnes. Puis la scène n'était pas belle, les corps étaient enflés, puis les orbites de leurs yeux étaient vides parce que des animaux avaient passé. Ils portaient tous seulement des habits thermiques et 3 d'entre eux étaient pieds nus. Il y avait une vidéo qui a été tournée pendant la découverte des corps qui est disponible sur YouTube. Je vais laisser un lien. Les visages sont brouillés, fait qu'on les voit pas, mais on les voit, sont toutes dans le même tas, là.
Hey.
Ils sont toutes quasiment en même place. C'est arrivé bing, 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 bing. En même temps, genre comme si un après l'autre, ils allaient essayer de sauver, puis là, flang, ils ont flanché.
Puis
c'est
les
vraiment
souliers
bizarre.
Enlevés, c'est random, ça.
C'est peut-être eux autres dans leur genre de panique, frénésie. Qui...
Ouais.
Elle n'en parle pas, la fille, qui s'était déchaussée ou quoi que ce soit.
Non, mais elle a dit que c'était certain, c'était déshabillé.
Oui, c'est vrai.
Fait que, est-ce que ça fait partie d'eux? Est-ce qu'elle n'a pas tout remarqué pendant, tu sais, d'un bord, il se passe ça, d'un bord, il se passe ça? Est-ce qu'elle n'a pas pu tout voir, j'imagine? Puis tout enregistré non plus.
Mode panique, là.
Oui, vraiment. Les autopsies ont révélé que Ludmila, Alexander, Tatiana, Denis, Victoria et Timur avaient tous des contusions au niveau des poumons. Ils présentaient des signes de malnutrition et ça a été considéré comme un facteur contribuant à leur décès. Toujours selon le rapport d'autopsie, tous les membres du groupe, à l'exception de Ludmila, seraient tous morts d'hypothermie. Ludmila, quant à elle, aurait souffert d'une crise cardiaque. Cette conclusion semble étrange si on se fie à la séquence des événements tels que racontés par Valentina. Les questions qui demeurent sans réponse sont les suivantes. Que s'est-il passé pour qu'autant de gens meurent de cette manière à quelques minutes d'intervalle? Pourquoi Valentina n'a pas subi le même sort, autant quand elle était avec le groupe ou à son retour pour s'approvisionner? Pourquoi le groupe de Natalia n'est pas passé par l'endroit où les 6 membres du groupe se trouvaient? Mais ça, on y a quand même abordé, il y a quand même des possibilités. Mm-hmm. Et pourquoi la police a attendu aussi longtemps avant d'envoyer une équipe de recherche? Mais en même temps, ils ne savaient pas où chercher parce que Valentina le disait pas.
Mais en même temps, il devait avoir un itinéraire précis quand ils sont partis en randonnée.
Mais oui, il y a quelqu'un qui devait savoir, là. T'sais? C'est cave. Genre, il tu montes le Kilimanjaro, là, puis je te jure qu'on peut aller retrouver...
Tu sais, t'as un itinéraire sur une carte, tu sais où tu vas passer, tel point stratégique, tel endroit, dans quel coin tu devrais dormir à chaque nuit.
Ouais, t'as des campements, genre, c'était, puis tout, là.
Ça aurait dû être quand même facile de refaire cette petite route-là, là.
Surtout les collègues alpinistes de Ludmila.
Ouais, c'est ça, sa fille qui dirigeait l'autre groupe. Devait connaître
elle était déjà revenue, elle.
Oui, mais elle aurait quand même pu dire à la police c'était où exactement l'itinéraire de sa mère.
Mais c'est drôle, pareil, parce que c'est le 10 août qu'elle a été retrouvée,
ouais.
Valentina, mais la fille de Ludmila elle était déjà revenue, là. Son voyage était fini. Elle a jamais dit « Ma mère n'est pas encore revenue. » Genre, c'est bizarre. On devrait peut-être aller vérifier. Ça aussi, c'est bizarre, là.
Mais sûrement que ça a été fait. Mais que Valentina était aussi portée disparue encore à ce moment-là.
Peut-être.
C'est l'inaction qui est comme... Tu sais, je veux dire, refaire... Elle devait avoir plein de... Elle devait peut-être avoir, genre, mettons... On va dire qu'elle a 5 trails différentes, là. Mais normalement, il aurait dû envoyer 5 équipes pour faire les 5 trails, là. Peut-être
dans
qu'elle
un monde
avait
parfait,
juste...
Là.
Mais non, dans un monde juste normal, je pense.
Mais je pense pas qu'il... C'est dur, des fois, de sortir toutes ces...
Mais tu sais, ils ont
ces
dû se parler,
là.
La fille puis la mère, là, avant de partir, là, ils s'étaient dit qu'elle allait se rejoindre à un point. Oui. C'est ça, un point central, admettons. Donc, les deux allaient arriver. Les deux devaient savoir quel trajet une allait faire versus l'autre.
C'est sûr.
T'sais, j'imagine. Ça aurait été facile pour la fille de dire, OK, ma mère, ils sont disparus, on ne sait pas son où, ils sont morts. Ben c'était cet itinéraire-là qu'il faisait cette fois-là.
Oui, c'est vrai.
C'est un truc organisé, là. C'est sûr, c'est sûr.
Ben, moi, en tout cas, c'est ce qui me vient en tête.
Puis clairement, ils l'ont pas consulté parce que ça a quand même été jusqu'au 26 août avant qu'ils les trouvent, là. C'est deux semaines, quasiment.
C'est long.
C'est sûr qu'elle a appelé la police, là. Puis les parents des enfants, là, de 15 ans, là, ils ont dû faire des appels à la police.
Ils devaient le savoir, eux autres aussi, là. C'est là, à 15 ans, mettons, tu montes à tes parents un peu, c'est où tu vas t'en aller, là. Ouais. Ça devait pas être boboche mal organisé.
Mais tu sais, à ces âges-là.
Ça pue la corruption.
Mais oui, mais en même temps, je me dis, c'est-tu possible qu'il était presque émancipé à cet âge-là, à ce moment-là?
Pourquoi?
En Russie,
c'est-tu différent? Ça, on le sait pas, là.
Mais.
Moi, je penserais pas, là.
Il y avait quand même pas 18 ans, là, 15 ans, c'est jeune.
Ouais, c'est sûr. C'était une école, là. Tu sais, c'était comme une école de ça, là.
Un genre de club d'alpinistes.
Comme la même affaire. C'est la même affaire avec Dyatlov, là.
Ouais.
C'est le même principe.
Okay.
C'était comme un rite de passage pour avoir accès. Je me rappelle plus c'était exactement quoi. Mais c'est similaire.
Un badge.
Non, c'était comme une certification en je sais plus quoi, là.
Instructeur en chef. Ouais.
Genre, c'était comme en instruction, en tout cas.
Oui, je me souviens.
Je suis rendue aux théories. J'aimerais savoir, Kat, t'en as un peu dit, mais qu'est-ce que vous pensez qui aurait pu se passer dans les montagnes Kamar-Baban?
Moi, je pense que c'est genre, comme je te dis, là, il y avait quelque chose dans l'air là, de radioactif. Là. Il faisait des tests de je sais pas quoi.
Hey!
Puis là, ouais, je suis dans la grosse théorie. Puis là, ils ont senti, ils ont respiré ça, ils ont d'une quelconque Inhalé. Façon. Puis là, ils sont comme tout allés dans le même nuage. Puis c'est pour ça que la police a pas agi. Parce qu'ils sont au courant.
Ça se tient.
Qu'il y avait des affaires.
Ça se tient. Pourquoi Valentina a survécu?
Ben, elle a juste pas whiffé ça, là.
Je comprends.
Peut-être. Ça pourrait être un malaise en lien avec l'altitude?
Ça
non,
se pourrait.
C'est. Hey, non, non. Moi, là, j'ai tout écouté les documentaires sur l'Everest, OK? Puis le K2, là, OK? Non.
K2?
C'est la plus. Genre, une des montagnes d'alpinistes populaires, mais la plus deadly, genre.
Ah, je connais pas ça.
Puis, dans le fond. Oui, t'as vraiment des problèmes plus tu montes en altitude, mais normalement, tu peux prendre aussi... ça commence avec des signes avant, là. T'sais, maux de tête, vomissements, blablabla. Puis éventuellement, tu t'habitues, ton corps s'accoutume. Ça, c'est si t'es pas médicamenté. Parce qu'il y a des petites pilules que tu peux prendre pour enlever ton malaise.
Non, je savais pas ça.
Tu vas continuer à monter. Mais bref. Fait que, t'sais, c'est pas ça qui arrive, là. C'est pas de la broue, puis tout. Puis... Sinon, même les gens qui arrivent dans le dead zone de l'Everest, où est-ce qu'il y a vraiment pas beaucoup d'oxygène, là, qui est comme le dernier petit bout, ben là, il faut qu'ils agissent rapidement parce que là, ils vont perdre de plus en plus d'oxygène. Puis tu sais, là, c'est vraiment extrême, là. Mais ils sont quand même capables... Tu sais, il y a du monde qui le font, là. Mais
oui,
il y en a qui le font avec des bonbonnes, là, d'oxygène, on va se le dire, puis les petites pilules, fait que ça aide.
Oui, il me faudrait ça,
mais
hein.
Back then, ils le faisaient à fret, comme on dit, là. Puis, tu sais, c'est ça, là. À un moment donné, tu vois des étoiles. Il y a plein d'affaires avant-coureurs, puis éventuellement, tu sais.
Ouais, OK.
Mais c'est pas foudroyant avec de la broue puis du sang, là.
Il aurait pu se faire mordre par une bête?
Ben, tu sais, ça ressemble plus à une genre de soit une contagion, genre, ou une affaire de mort, comme ça.
Mais je pense pas que ce serait spécifiquement la rage, là, parce que t'as pas des symptômes sur le coup, là.
Puis c'est tout ça, les symptômes de la rage, je penserais pas, là.
Je penserais pas.
Je pense que la petite broue, ça nous joue dans l'imaginaire, là.
T'es plus hydrophobe, t'as peur de l'eau.
Du vent aussi.
Oui, hein. Et que ça a pas l'air nice. Ça,
elle,
là,
la rage, t'as peur de l'eau puis du
vent. Oui, t'es hydrophobe, tu peux plus boire de l'eau.
C'est.
Mettons, je fais ça, là.
Tellement weird.
Ouais. C'est spécial ce que ça fait, là, neurologiquement, là.
Ouais.
C'est fucké, la rage. Je trouve c'est.
Mais t'as full soif, mais tu peux pas boire d'eau.
Oui.
OK, c'est pour ça, la broue.
Peut-être.
La
vieille
bave. Tu fais de l'écume.
Probablement.
Ta salive s'épaissit, genre.
Ah,
bon, OK.
Quel calvaire.
Fait clairement, c'est pas la rage.
Je pense pas. Parce qu'il y aurait eu des signes avant-coureurs. Je pense que c'était un randonneur presque expérimenté. Tu le sais, là, quand tu te fais mordre par une bête, là, que toute la gang se soit faite mordre par la même bête.
Ouais,
c'est ou qu'ils se mordaient entre eux. Mais là, on se rappelle, Victoria a mordu Valentina. Puis elle a pas eu la rage avec sa Claude Lozier.
Ah!
Merci de ramener ce petit détail étrange.
Oui. Première théorie, on va aborder l'hypothermie, OK? Vu que c'est ça, majoritairement, la cause du décès des randonneurs. Exactement 5 ans après la tragédie, le journaliste Vladimir Zarov a parcouru à lui seul le même trajet que les randonneurs au mois d'août 1993. Il a déclaré au journal Inform Police « Cet incident a suscité énormément de confusion. J'ai donc décidé de répéter l'itinéraire complet du groupe et de découvrir ce qui s'est passé sur place. » Selon lui, la chose qui a démarré la chaîne d'événements est la météo. Parce que oui, la randonnée a eu lieu durant l'été, mais reste qu'ils étaient dans des montagnes, en montagne.
Mm-hmm.
Et il peut parfois faire très froid. De la neige est quand même tombée dans les montagnes durant la nuit du 4 au 5 août 1993. Ajoutons à ça la tempête de pluie dont le groupe avait été confronté. Ils ont marché presque une journée complète sous la pluie. Leurs vêtements, leurs tentes, leurs sacs de couchage, bref, tout était mouillé. Le groupe n'a pas été en mesure d'allumer un feu pour se réchauffer et ils se sont installés à un endroit à découvert où ils n'étaient pas protégés du vent.
Mm-hmm.
OK.
S'ils avaient continué 30 minutes, ils auraient eu accès à un abri et à du bois sec. Le journaliste Vladimir Zarov a suggéré que la raison pour laquelle le groupe n'a pas continué, mais a plutôt décidé de rester à un endroit peu adéquat pour la nuit, est peut-être dû au fait. C'était dû au fait que, dans le fond, à cause de la carte. Parce que selon lui, la carte n'est pas assez précise. Puis à ce moment-là, les montagnes n'avaient pas été bien cartographiées.
Ouais.
Fait que ça se peut. Sauf que Ludmila connaissait bien la région des montagnes Kabardaban. On sait pas trop si leur carte a été retrouvée, mais j'ai lu à des places que quand Valentina est allée chercher des trucs pour s'approvisionner, elle aurait pris une carte, mais j'étais pas comme capable de vraiment le confirmer.
Mais mettons, c'est sûr qu'elle l'a ramassée. Là, c'était un peu sa seule chance.
S'il y en avait une, c'est sûr qu'elle l'a pris.
Ouais. Moi, j'aurais mangé des groseilles puis des bleuets dans le bois, ma belle. Si je serais pas retournée là, mais la carte... La carte, ça vaut quand même quelque chose.
Mais en même temps, elle a pas tant suivi la carte plus qu'elle a suivi les lignes électriques. Puis elle s'est dit, il faut que je me trouve un ruisseau, parce que ruisseau égale civilisation.
Ouais.
Mais étendu d'eau, mettons. Ça, on peut supposer. Lui aussi, le journaliste, il pense que Ludmila, la leader du groupe, ne se soit pas bien orientée au moment du crépuscule et il y a peut-être eu une autre option. Peut-être qu'elle a eu pitié des randonneurs qui étaient épuisés à cause de la pluie. Fait qu'elle a dit, OK, on va arrêter tout de suite, là, vous êtes à bout. Mais aucune manière de confirmer ça.
Mais il serait pas mort à cause de ça, là?
Non, mais ça l'a contribué au fait qu'il aurait peut-être souffert d'hypothermie.
Pourquoi ils se sont pas réfugiés, dans le fond, dans la forêt, comme on disait?
Oui.
Parce que 4 km, là, c'est pas gros, là.
Ouais, je comprends.
Puis tu descends, tu montes
mais
pas,
ça,
là.
Mais ça, c'est un élément déclencheur, dans le fond, l'hypothermie.
Oui.
Parce que tu meurs pas non plus de cette façon-là à cause que tu fais de l'hypothermie.
Non, mais attends, pas fini, cette histoire-là.
Mais moi, là, j'achète pas ça, là. C'est une randonnée de plusieurs jours. La madame, là, elle va leur dire « Hey, les amis, là, on descend 20 minutes. On est dans la forêt. » Tu sais, genre, ils sont capables d'en prendre. Là. Ils s'embarquent dans une randonnée de plusieurs jours. Puis ils font, tu sais, des campements et tout. C'est pas 20 minutes qui va faire une différence, là.
Ouais, c'est pas clair pourquoi. Si, mettons, c'était pas bien noté sur sa carte, c'est peut-être pour ça. Fait que ça fait quand même du sens. Tu sais, elle pensait que la forêt où ça allait repartir, c'était plus loin. Plus bas, puis elle s'est dit, ben là, tout est lourd, on est mouillé, on a froid, on va essayer de faire un feu ici, mais finalement, on n'a pas eu le feu, mais là, le set est fait. La tente est montée. Mais on ne sait pas si c'est vraiment elle. Tu sais, ça porte tout de elle, là. C'est une monde condamnée, elle dit, bon, OK, moi, touche ta boute. On le sait pas, on suppose, on se fait des films. Hein.
Ouais.
Le lendemain, quand le groupe a repris sa randonnée, Sacha aurait bien pu être le premier à succomber au froid. Sacha était l'homme le plus vieux du groupe, à 24 ans. C'était aussi lui, le plus fort, lui qui s'occupait du feu. Qui coupait le bois et qui portait les items les plus lourds sur son dos. Le voir s'effondrer était incontestablement un choc pour tout le monde, mais surtout Ludmila, qu'il considérait comme son propre fils. Elle a dû être submergée par une immense vague d'émotions. C'était elle qui était chargée et qui était responsable du bien-être du groupe. Puis, ils étaient jeunes, les membres du groupe? Ça a dû y rentrer dedans. C'est pas impossible que Ludmila, en voyant le corps inanimé de Sacha, ait succombé après une crise cardiaque. Elle aussi avait été affectée par les éléments, la pluie, le froid, le vent. Pour ce qui est des autres décès, ça reste un mystère. Mais le journaliste Vladimir Zarov est convaincu que les causes de la mort notées dans l'autopsie sont valables. Selon lui, la raison pour laquelle Valentina s'en est sauvée, c'est parce qu'elle est restée calme et qu'elle a agi. Dans les derniers instants, Victoria et Timur, les deux plus jeunes membres du groupe, se sont mis à déchirer leurs vêtements. Ça rappelle beaucoup le déshabillage paradoxal qui peut arriver lors de l'hypothermie.
T'sais, ils font une crise d'hypothermie en même temps, au même moment, juste après que le gars il s'effondre puis que la fille fasse une crise cardiaque.
L'autopsie dit vraiment que c'est une crise cardiaque. Fait que ça, pour c'est sûr à 100%.
Tout ça en 10 minutes. Bingo!
Mais j'y crois quand même à la crise cardiaque, ça se peut. Mais elle a quand même saigné.
Elle a comme fait une grosse réaction à cause qu'elle a vu le gars tomber.
Mais maintenant qu'elle est épuisée, t'as beau, t'as mal dormi, à frais, tout son système est au qui-vive. Là.
Mm-hmm.
Puis là, tu vis un choc comme ça de « Oh mon Dieu, quelqu'un est en train de crever dans mon groupe. La personne qui nous aide le plus parce que c'est le plus fort, c'est l'homme le plus vieux, je l'aime d'amour. » Tu sais, il est nécessaire, c'est lui qui part le feu, c'est lui qui fait tout. Et là, il meurt pendant que j'ai 5 autres petits poussets à côté de moi qui dépendent de moi. Là. J'y crois, une crise de cœur.
Peut-être, ben oui.
On sait pas ses antécédents de santé.
Ouais, c'est ça que j'allais dire, mais il y a une autre partie de moi qui sait très bien que les alpinistes souvent sont fucking en shape. Là. Mais tu sais, c'est pas parce que t'es en fucking shape que tu cours des marathons que tu peux pas péter à la dernier kilomètre. On sait jamais ces affaires-là.
Ça ne se prédit pas. Tout ça fait quand même beaucoup de sens, mais ni l'hypothermie, ni une crise de cœur ne causent des saignements au niveau du nez, des yeux et de la bouche. Fait que là, ça m'apporte à une autre théorie qui pourrait expliquer la divergence entre les souvenirs de Valentina et ce qui s'est réellement produit.
Mm-hmm.
Faut dire que Valentina a vécu avec un choc post-traumatique et la culpabilité du survivant, parce que c'est la seule qui a survécu. Fait que ça, c'est comme quand tu te dis pourquoi je suis la seule qui a survécu, est-ce que je mérite d'avoir survécu, pourquoi c'est moi puis pas eux, genre.
Je la comprends vraiment. Mais elle avait quel âge déjà?
17 ans.
OK, elle était toute jeune en plus, ouais. Là. C'est tough, là.
Ouais.
Le cerveau est même pas encore fini de développer 100% à 17 ans.
C'est ça. Fait qu'imagine vivre avec un choc post-traumatique.
Ouais.
En plus, toutes les gens à qui tu t'es rapproché sont morts devant toi, t'es vus mourir.
Ben, c'est sûr que ça commence mal une vie. Hein.
Avec ça en tête, puis en repensant au fait que Christian Page dit que nos souvenirs ne sont pas des fidèles reconstructions du passé, je me suis dit que je ferais 2-3 petites recherches là-dessus. Je suis tombée sur un article sur le site Psychology Today, intitulé « Traumatisme et distorsion de la mémoire », écrit par le docteur Nathan Lentz avec l'aide de Dr. Darren Strange, professeur en psychologie médico-légale au Collège de justice pénale John Jay à New York. Alors, Félix-Antoine, tu vas nous lire un passage de l'article scientifique.
Des preuves convergentes démontrent que les expériences de traumatisme, qu'il s'agisse d'un événement unique, comme une agression sexuelle ou d'une expérience stressante pouvant impliquer plusieurs types de traumatismes, comme des expériences de guerre, sont également vulnérables à la distorsion de la mémoire. En fait, la distorsion de la mémoire traumatique semble suivre un schéma particulier. Les gens ont tendance à se souvenir d'avoir subi encore plus de traumatismes qu'ils ne l'ont réellement fait. Cela se traduit généralement par une plus grande gravité des symptômes du syndrome de stress post-traumatique au fil du temps, à mesure que le traumatisme dont on se souvient grandit. Des anciens vétérans ont été questionnés 1 mois et 2 ans après leur service. Ils étaient questionnés à savoir si certains événements se sont produits, par exemple, voir un collègue mourir. Ils ont constaté que 88% des anciens combattants avaient modifié leur réponse en lien avec au moins un événement et que 61% en avaient modifié plusieurs. Il est important de noter que la majorité de ces changements sont passés de « non, cela n'est même pas arrivé » à « oui, cela m'est arrivé ». Cet excès de mémoire était associé à une augmentation des symptômes de choc post-traumatique. Le laboratoire de recherche du Dr. Darren Strange a réalisé une étude dans laquelle les participants ont regardé un court-métrage illustrant un véritable accident de voiture mortel avec des scènes graphiques. Le film était divisé en une série de scènes distinctes séparées par des images vierges. Ces points blancs représentaient des éléments marquants, c'est-à-dire des scènes qui avaient été supprimées. Certaines de ces scènes marquantes étaient traumatisantes, par exemple un enfant criant après ses parents, tandis que d'autres n'étaient pas traumatisantes, par exemple l'arrivée d'un hélicoptère de sauvetage. 24 heures plus tard, les spectateurs sont revenus pour un test surprise visant à sonder leur mémoire du film qui leur avait été projeté, ainsi que leurs pensées et leurs souvenirs à propos du film au cours des dernières 24 heures. Les participants ont obtenu des bons résultats quant à leur capacité à reconnaître les scènes qui leur avaient effectivement été montrées dans le cadre de la vidéo. Cependant, environ un quart du temps, ils reconnaissent des scènes qu'ils n'avaient pas réellement vues. De plus, certains téléspectateurs ont signalé des symptômes de choc post-traumatique. Ils ont déclaré avoir pensé aux scènes traumatisantes sans le vouloir, pensées intrusives, et avoir évité les choses qui leur rappelaient le film. Il est intéressant de noter que ceux qui présentaient des symptômes de choc post-traumatique étaient plus susceptibles que les autres de se souvenir trop des événements traumatisants du film qu'ils n'avaient pas réellement vus. Ceci constitue une preuve supplémentaire d'un lien entre les symptômes du choc post-traumatique et la distorsion de la mémoire.
Aussi captivante que la version de Valentina puisse être, on n'a aucune certitude que ce qu'elle a dit, c'est ce qui s'est véritablement passé dans les montagnes.
En effet.
Oui, c'est sûr.
C'est juste elle qui peut savoir ça, dans le fond. La seule affaire, c'est qu'il avait trouvé des bleus dans les poumons.
Ouais.
Ça.
C'est pas en tombant que tu te fais ça.
Non. Mais tu sais, je serais comme curieuse de savoir un médecin. Genre, ça, c'est un signe de telle affaire.
Oui.
Parce ouais, comment que tu peux te faire ça, des bleus, ces poumons?
Vite de même, j'ai l'impression que c'est rare, mais peut-être vraiment pas. C'est peut-être super commun, j'en ai aucune idée. Monsieur Google.
Ouf, explosion.
Explosion.
Explosion. Un coup violent porté au thorax dans un accident de la route ou une chute peut causer un hématome au niveau du poumon. Les contusions pulmonaires sont des lésions traumatiques pulmonaires rencontrées dans environ 50 % des traumatismes thoraciques graves. Les causes d'une contusion pulmonaire sont les suivantes. Les ondes de choc associées à un traumatisme thoracique pénétrant, les explosions, les chutes de grande hauteur, les traumatismes thoraciques contondants, les blessures sportives.
Fait que mostly des coups, il y a l'explosion au travers qui est comme un peu intriguante.
Mais il y avait ça aussi, me semble, à une personne dans Dyatlov Pass. Une personne qui avait comme... C'est comme s'il avait été frappé par un auto qui disait le gars qui faisait l'autopsie. Il ne comprenait pas.
Ouais, c'était intense, Dyatlov Pass.
Parce qu'il y avait beaucoup de blessures différentes.
Mm-hmm.
Pour ce qui est de la théorie de l'hypothermie, il y a certaines parties que je pense que je crois, mais il y a certaines parties qui me laissent un peu dans le doute, personnellement. Mais si on considère que c'est possible que Valentina a des distorsions de la mémoire, ça peut faire du sens. C'est vraiment ça qu'elle a vu?
Ouais, c'est ça. Tout repose un peu là-dessus. Là.
Mm. Puis elle veut pas en reparler. Fait qu'on peut oublier ça, là. On en reparlera pas, la fille.
Ouais.
Ce qu'elle a vu, ça l'a vraiment traumatisée. Mais encore là, en tout cas. Deuxième théorie que Catherine a quand même déconstruite, mais je vais l'aborder quand même. Plusieurs suggèrent que le groupe a souffert du mal de l'altitude qui apparaît dans des conditions de haute altitude. En raison du manque d'oxygène, le groupe aurait pu avoir des effets néfastes au cerveau qui auraient provoqué différentes réactions, y compris au cœur, au vaisseau sanguin et peut causer même des hallucinations. Le problème avec ça, c'est que c'est presque du jamais vu que quelqu'un souffre du mal de l'altitude à l'altitude à laquelle ce groupe se trouvait.
C'est ça.
Ça peut tout de même se produire suite à une ascension trop rapide, ce qui laisse pas assez de temps au corps de s'adapter à la réduction d'oxygène ou au changement de pression atmosphérique. Les symptômes causés après un mal d'altitude sont les maux de tête, la perte d'appétit, les vomissements, la fatigue, la difficulté à dormir.
Je suis tellement bonne!
T'es tellement vraiment bravo! Mais c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut attribuer à eux. Mais il y a quelque chose qui existe qui s'appelle les psychoses en haute altitude. C'est un syndrome qui est observé à grande échelle et qui a été étudié. Auparavant, c'était attribué à un symptôme du mal de l'altitude, mais les recherches ont révélé que c'est un phénomène complètement à part. Selon le Times, c'est arrivé à un homme en 2008 lorsqu'il escaladait le Mont Everest. Jeremy Windsor, de son prénom, était seul et il a croisé un homme qui s'appelait Jimmy. Pendant 10 heures, ils ont discuté et marché ensemble. L'homme disait des mots d'encouragement à Jeremy. Et Jérémy disait pouvoir entendre ses crampons dans la glace et sentait le poids de ses pas dans la neige à côté de lui. Puis pouf, Jimmy a disparu devant ses yeux, à mesure qu'il descendait. Puis c'est pas le seul, il y a plusieurs personnes qui vont dire qu'ils entendent des voix dans les montagnes. Fait qu'il y a autant des hallucinations auditives que visuelles.
Ouais, mais là, on parle d'un groupe de 6 personnes qui auraient tout eu ça en même temps.
Ouais, là, on parle
c'est tout le temps ça qui m'énerve.
Une folie de masse, là, tu sais, ça peut... Ouais. Là, je pense un peu too much, là.
Ouais. Celle-là, de toute façon, ça tue pas personne, là.
Mais anyway, c'est supposé s'arrêter durant la descente. Puis là, c'est arrivé pendant qu'il descendait. Ça marche
mais
pas.
Mais ce genre de...
Autre bon point, là. Ça, c'est vraiment comme... La fille, elle aurait sûrement mentionné là, qu'il y avait eu des malaises un peu plus haut ou quoi que ce soit. Oui. Là, tu sais, je veux dire, on l'aurait quand même su. Parce que c'est super fréquent, mais il faudrait que tu me dises, ils sont à combien de mètres? Et où est-ce qu'ils sont décédés?
2200 mètres.
Okay, je pense que c'est là que d'habitude, tu peux recevoir... commencer à...
C'est à 2500.
C'est ça.
Fait que t'es pas loin.
Sentir quelque chose.
Moi, j'ai déjà monté à 3480 mètres.
Où ça?
En Europe. Puis j'avais un rythme cardiaque plus élevé, puis j'étais plus essoufflé.
Mais c'est plus difficile, t'as moins d'air.
Mm.
Puis la pression
atmosphérique. Puis on avait monté vite, là. On avait genre monté en 20 minutes. D'autres on était en télécabine, on n'était pas...
OK, comme d'autres, ça se peut
J'étais
pas.
Un athlète avant Catherine.
Mais moi, je sais pas si on en a parlé... sur un Patreon la semaine passée, mais je vous ai dit que j'avais pété mon tympan dans la gondole
au Mont-Saint-Anne. Mais qui n'est pas encore publié, je crois, d'ailleurs. Alors, ça s'en vient si jamais vous vous dites comment ça, non, mais il n'est pas encore publié.
Mais oui, fait que tu sais, il y en a qui sont plus fragiles, mais je veux dire, ça n'a comme pas rapport, là.
Ça dépend.
C'est comme la congestion nasale et ces affaires-là qui ont fait que ça a explosé, puis c'est la rapidité. Puis je sais pas, je suis vraiment faible. Mais...
faible de leur...
Mais tout ça pour dire que quand même 6 personnes qui souffriraient de genre folie d'altitude en même temps à va se mordre pis tout.
Mais à moins que c'est Valentina qui a eu une psychose, mettons, puis que les autres ont souffert de quelque chose puis elle a pensé que c'était donc pire. Mais ouais. Qu'est-ce qui les a tués quand même, les six en même temps?
Mais, tu sais, les genres d'hallucinations que tu nommais tantôt, là, les hallucinations par rapport à l'altitude, là.
Oui.
Ce que tu disais que les gens entendaient des choses, ça doit peut-être plus arriver quand c'est des gens qui se font des randonnées seuls. Quand ils parlent pas avec d'autres gens pendant un certain temps, peut-être que ça se peut-être, développe plus. Ouais. Que tu sais, si, admettons, t'es avec des gens, puis tu parles, puis tu...
Il me semble que j'ai vu que c'était arrivé à deux personnes. Il y était deux personnes ensemble.
Ah.
Aussi. Il me semble que j'ai vu ça.
Peut-être qu'ils s'étaient
fait. Mais ça doit dépendre des cas. Oui, c'est ça. Peut-être aussi, là. Je pense quand même pas que c'est ça, mais c'est... je le mentionne quand même. Autre théorie. Une explication potentielle serait liée à une intoxication. Tous les membres du groupe aimaient cueillir des champignons.
Mycologie.
Oui. On peut envisager que par erreur, ils aient consommé des champignons toxiques ou même vénéneux. Par exemple, ils ont inclus les champignons dans leur déjeuner. Une partie du groupe en serait décédée, tandis que Valentina aurait eu des hallucinations et ce qu'elle a pensé avoir vu n'était tout simplement pas arrivé. Ou peut-être qu'elle en a pas mangé et qu'elle a confondu des vomissements avec autre chose. Mais mm-hmm. Valentina a dit que tout le monde avait mangé la même chose. En regardant un peu les symptômes de surdose de psilocybine, plus communément appelé le champignon magique, on peut voir anxiété, convulsion, vomissement, coma, psychose, augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Ajoute à ça des hallucinations, on obtient peut-être quelque chose.
Mais c'était peut-être d'autres sortes de champignons, là.
Mais ça, pas. Mais ça se peut. Mais mettons, ça pourrait être une intoxication alimentaire. Un, prenez des pas bons champignons. Ou deux, des champignons qui n'étaient pas bons à manger, toxiques. Ou trois, champignons magiques.
Ouais, okay. Mais champignons magiques, ça ne pousse pas dans la crotte de vache?
Ben, je sais pas, moi, c'est des vaches-là, moi. Je
pense que oui,
moi.
Des vaches là-bas?
Moi, je pense.
Qui se promènent en Russie dans les montagnes?
Ben,
en Asie?
Ben, des champignons qui étaient plus comme vraiment toxiques, ça se pourrait être plus.
En Russie, là, il y a une vache pour 20 résidents.
Tasse-toi d'être là.
Puis au Canada?
Combien de vaches par résident?
Ça dit qu'on a 1,8 des 965 millions de vaches. C'est pas exactement la même donnée. Ouais. Fait que...
Mais ce que je veux savoir, c'est ce que les vaches ont dans les montagnes de neige. C'est vrai que les champignons magiques, ça pousse dans la crotte de vache? Je sais même pas si c'est vrai, là. Je fais peut-être, je répands peut-être juste des fake news partout dans le monde.
Ça pousse après la pluie. Il a mouillé.
Mais là, c'est pas du moche qu'ils auraient tué, là.
Ouais, non, mais ils auraient pu faire une surdose, la gang. Ils en ont eu plein dans leur omelette du matin.
Non, mais je suis d'accord avec Félix. Ce qu'on veut dire, c'est n'importe quel autre champignon, sauf le classique champignon magique, pourrait avoir un effet similaire puis plus dangereux.
Mais selon la CDC, tu peux quand même faire des convulsions, des vomissements, du coma, psychose, augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle.
Ouais, mais imagine un champignon toxique.
Oui, c'est sûr.
Le calice de la mort, surnommé la manite.
Faudrait voir quels champignons poussent là-bas.
C'est les plus communs.
Ouais, moi, j'irais faire un petit peu de mycologie russe.
Il détruit de façon irrémédiable le foie après avoir causé des vomissements, une forte déshydratation et parfois un changement de rythme cardiaque.
Hey! T'as trouvé!
Mais il pousse-tu là-bas?
Ben là, je sais pas, mais je sais que c'est un des plus communs.
Si j'avais mon sel, là,
il est dans l'INSPQ même.
Oh! Washington Post publie un article... En 2000, apparemment qu'il y a 200 personnes qui sont mortes en Russie et en Ukraine en un été après avoir mangé des champignons empoisonnés. Pas empoisonnés, mais toxiques.
Lesquels? On sait lesquels?
Non. Puis que ça a l'air que la vente de mushrooms a été bannie dans plusieurs régions. Fait que ça se peut, c'est ça qu'ils ont mangé quand même. Puis genre, il y a quelqu'un qui dit que ce serait absurde d'arrêter les Russes de cueillir des champignons, malgré qu'ils ont banni ça dans certains endroits. Si le sol a été contaminé, c'est quasiment sûr que les champignons sont pas bons.
Bon.
Un article du Washington Post. Je vais le mettre dans les sources, mais il est en anglais.
Regarde, dans la chaîne de montagne que tu nous parles, là, c'est la taïga, je crois, le type de forêt. Est-ce que j'ai lu rapidement?
Possible.
C'est des conifères.
Oui.
Des sapins. Puis ils disent que le champignon que je vous parlais tantôt, là, ça pousse dans les forêts de conifères.
Ah, on tient quelque
avec
chose.
Avec lequel il vit en symbiose.
Mais c'est quoi les symptômes d'une intoxication de ça?
Mais hey, les amis, c'est juste parce que il doit y avoir 400 champignons qui ont à peu près toutes les mêmes. Tu sais, je veux dire, c'est tellement large, là, la flore, là, puis d'un pays à l'autre. Puis, tu sais, je veux dire, même ici, il y en a sûrement un que tu manges, puis que tu veux. Si tu meurs pas de chimou, là.
Ouais.
Mettons.
Oui, oui.
Fait que, tu sais, je veux dire, on s'acharnera pas à essayer de trouver c'est quelle.
On est en train de vouloir résoudre l'enquête,
mon Dieu. Ça marchera pas, là. J'aime mieux vous ramener. Mais bel effort, mais bien, oui, on sait que plusieurs types de champignons qui sont vénéneux peuvent avoir des effets similaires à ça.
Prochaine théorie. C'est possible que les randonneurs aient ingéré de l'eau contaminée. Le lac Baïkal, qui est protégé par l'UNESCO, est extrêmement pollué. Un des effets néfastes de cette pollution est la prolifération d'algues cyanobactériennes. Selon le site du CDC, l'ingestion pourrait causer des vomissements, des conjonctivites, rhinites, maux d'oreille, une enflure des lèvres, des maux d'oreille et de gorge, des symptômes similaires à des rhumes des foins, des maux de tête, des malaises, des faiblesses musculaires, douleurs dans les articulations et les membres, une pneumonie, le larmoiement des yeux. Sans avoir nécessairement bu ou mal géré l'eau contaminée, c'est possible que l'eau du lac ait contaminé des choses qu'ils ont cueillies et mangées par la suite, comme des champignons. Ce qui cloche avec cette théorie, c'est que normalement, les symptômes durent plusieurs jours.
Ouais, puis on n'a aucun de ces symptômes-là.
C'est ça.
On dirait que tu nous parles d'un rhume des foins.
Ouais. C'est pas mortel. Mais si c'est pas exactement les symptômes, mais que les souvenirs de Valentina sont distorsionnés, parce qu'on peut pas se fier 100%. Ils ont-tu vraiment saigné des yeux ou qu'ils pleuraient puis ils avaient les yeux rouges?
Merci. J'adore que tu rends... Dans le fond, t'es en train de démystifier un peu comme un cas de fantôme. Les yeux, le sang dans les yeux, c'est une conjonctivite. C'est
maux d'oreille puis de gorge, à mal à la gorge, à se tient à gorge. Mais ça explique pas qu'ils sont morts.
Non.
Puis pas elle, encore une fois. Mm-hmm. C'est ça qui gosse. OK, là, je m'en vais dans une théorie qui va t'intéresser, Kat. Expérience militaire.
Ta-ta-ta.
Le groupe de randonneurs ont peut-être emprunté un itinéraire qui les a accidentellement menés vers une expérience militaire russe en cours dans les montagnes. Les gens derrière ces expériences auraient alors tué la majeure partie du groupe. La police et le médecin légiste ont peut-être alors menti sur les circonstances de leur mort. Cette théorie présente des lacunes. Les montagnes Camardavan sont très populaires auprès des touristes en été. Ce serait assez téméraire de la part de l'armée et ou du gouvernement de faire des expériences secrètes en pleine saison touristique à un endroit hautement fréquenté. Aussi, pourquoi les randonneurs seraient morts à l'exception de Valentina? Pourquoi on lui aurait permis de survivre ou comment aurait-elle fait pour s'échapper?
Ben, elle l'aurait dit aussi.
Mais il y en a qui pensent que Valentina, c'était une agente secrète.
Ah!
Mais c'est tout. C'est juste ça. Il y en a qui ont dit peut-être que c'était une agente secrète... du KGB, j'en sais pas trop.
Faut pas exagérer.
Ben, il y a tout le temps des théories comme ça, m'a dire. Mais j'y crois pas pour deux scènes. Mais c'est pareil.
On établit tout.
On dit tout. On met tout. On y croit qu'on y croit pas.
On met tout sur la table.
Dans le même sens que la théorie des possibles expériences militaires, plusieurs internautes suggèrent la théorie que le groupe de randonneurs soit entré en contact avec un agent neurotoxique, le Novichok.
C'est ma théorie. Ça.
Le Novichok est un gaz créé par la Russie soviétique et utilisé jusqu'en 1993, soit l'année de l'incident dans les montagnes. Selon ce que j'ai lu, ce type d'agent neurotoxique est le plus mortel qui existe. L'empoisonnement peut provenir par inhalation, par ingestion ou par contact cutané. S'il est absorbé en petite quantité, le Novichok peut causer des convulsions, une faiblesse musculaire, des nausées, des paralysies, des vomissements et des difficultés respiratoires dues à la sécrétion de liquide dans les voies respiratoires. À des doses plus élevées, les muscles respiratoires deviennent paralysés et la mort survient, généralement par asphyxie. Ceux qui survivent à un empoisonnement risquent de subir des dommages neurologiques durables ou permanents. Il y en a qui pensent que ça pourrait être causé par des expériences militaires qui incluent de la radiation. Si le groupe de randonneurs ont été accidentellement exposés à la radiation, ils auraient eu des symptômes comme vomissements, confusion, évanouissement, saignement de la bouche, du nez, des gencives et du rectum, en plus de vomir du sang, d'avoir des ulcères dans la bouche et dans l'œsophage.
Ben, ça ressemble à ça.
Ça ressemble à ça, hein?
Ben là, moi, c'était la première... Mais ça, c'est la théorie qui fait le plus de sens si ce que Valentina a dit est vrai, vrai, vrai.
Oui.
Si ce qu'elle a dit est distorsionné ou mal interprété, ou peu importe, ben là, tout ça n'est pas une théorie pour
c'est
moi.
C'est ça. Fait qu'il faut voir de quel bord on penche. Est-ce qu'on croit Valentina à 110% ou est-ce qu'on croit pas à ce que Valentina dit?
C'est tout.
C'est dur, juste ça, de se positionner.
Mm-hmm. Tout
mais
tombe
elle,
là-dessus.
Mais elle a peut-être, sans faire partie de l'armée, elle a peut-être eu des avertissements très stricts.
Peut-être qu'ils l'ont laissé survivre pour passer un message.
Peut-être que si aussi... La police était de connivence avec l'armée puis le médecin légiste, comme tu dis. ben ça se peut que tu sais la version qu'elle a donnée.
C'est pour ça qu'elle la répète plus.
Ouais, puis peut-être, peut-être que la police, dans le fond, elle a donné la version de l'armée, puis eux autres, la police, ils ont juste fermé les yeux là-dessus, puis ils ont inventé une version autre.
Puis ils ont menacé si elle parle encore.
Mm-hmm.
C'est pas fou.
Parce que le fait qu'elle n'en parle plus, là, qui ajoute aussi un petit poids dans la crédibilité de cette dernière théorie.
C'est pas la dernière.
Oh!
Dernière théorie, qui ressemble un peu à celle qu'on vient de dire. Il existe un piège contre les animaux sauvages, comme les ours et les loups, qui, une fois déclenché, relâche du cyanure de sodium pour tuer les bêtes.
Mmh.
Les dispositifs sont activés avec un ressort qui projette du poison dans la bouche de l'animal. C'est quelque chose qui est courant aux États-Unis, puis ça s'appelle les pièges M44. Puis ça a créé beaucoup, beaucoup de controverses, parce que Donald Trump a réautorisé ces pièges-là à être placés aux États-Unis.
OK.
Puis ça avait été comme banni pendant une courte période, puis lui, ils ont réautorisé. En tout cas, ce type de piège a tué plus de 6500 animaux sauvages en 2018 aux États-Unis, sans compter les animaux domestiques et les animaux en voie de disparition. Fait que c'est pour ça que ça avait été banni.
Ben c'est full aléatoire, là. Ça pourrait être un humain, comme on dit.
Ben c'est ça, parce que justement, il y a un adolescent de l'Idaho qui a été en contact avec un piège qui avait été placé aux limites de sa cour par des employés de l'État. Le piège s'est déclenché alors que l'adolescent jouait avec son chien. Son chien est mort et l'adolescent s'en est sorti.
Hey, c'est terrible.
Mais il y a eu des problèmes. Du poison dans la bouche.
C'est que ça te projette un spray, genre. Fait comme que là, mettons, à bonne hauteur, l'animal, il le reçoit dans la bouche. S'il taponne dessus avec son bec, sa
un
bouche.
Un humain, ça ne s'ouvrirait pas nécessairement.
Ben, si, mettons, t'as la botte avec ton pied, tu vois ça, tu sais pas c'est quoi, boum, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait quand on voit de quoi à terre, qu'on sait pas c'est quoi? On met direct le pied dessus comme des taouins.
Mais je m'ouvre pas la bouche, est-ce-t-il?
Ouais, mais tu le respires pareil.
Ouais, ça signale. Puis un des points de contact de genre contamination ou peu importe, là, c'est souvent les muqueuses, fait que les yeux. Genre, ça rentre beaucoup par les yeux, puis les nez, la bouche, partout.
Selon le CDC, les effets observés chez l'humain apparaissent rapidement, soit après l'inhalation ou l'ingestion du poison. Ça peut causer la mort en quelques minutes. Voici la liste de symptômes dans le cas sévère d'inhalation. Coma, convulsion, pupille dilatée, inflammation de la surface de l'œil, cécité temporaire, dysrythmie, fait que rythme cardiaque anormaux ou désordonné, tension artérielle extrêmement basse, arrêt cardiaque, accumulation de liquide dans les poumons, un arrêt respiratoire. Fait que ça peut rappeler un peu que c'était Tatiana qui était plus capable de respirer, elle se poignait la gorge.
Tellement, oui. Ils ont toutes eu, selon l'histoire de Valentina, se sont toutes pris la gorge.
Non,
on...
je pense que c'est les jeunes, puis Victoria. Puis on ne sait pas si Sacha l'a fait parce qu'il était de dos. On ne sait pas si Ludmilla l'a fait parce qu'il était de dos, encore une fois. Il était derrière eux pendant qu'eux continuaient, puis ils marchaient. Et qui ne savent pas sur quoi c'est pas pogné à la gorge. Si quelqu'un tentait de pratiquer des manœuvres de réanimation sur une personne atteinte par le poison, cette personne serait affectée à son tour.
Ah, oh, mon Dieu, OK, ça fait vraiment du sens. C'est un peu moins terrorisant que les trucs de l'armée. Là.
Ouais.
Fait que je vais y aller pour cette théorie-là, moi. Puis ça fait full de sens parce qu'il y a une contamination rapide.
Oui, c'est ça. Mais dès que les gens entrent en contact avec...
Ils n'ont pas tous essayé de s'aider, par contre.
Bien, c'est à partir que Ludmilla est allée vers Sacha.
Oui,
ça, okay. Après ça, Tatiana est allée proche. Puis dans la vidéo, on voit les corps sont quand même à proximité. Il y a peut-être juste Valentina qui n'est pas allée proche. Mais un bout, elle courait main dans la main, quasiment, avec Denise.
Puis tu sais, on s'entend, s'ils sont toutes morts dans le même, on va dire, 5 mètres, là, ce que tu avais l'air de dire, là. Ben, mettons, là, moi, je le vois, là, le produit qui s'échappe un peu comme une genre de brouillard de poivre de Cayenne. Tout le monde va être affecté.
Puis si Sacha est en arrière, puis c'est lui qui l'a botté, mettons, il a vu ça, il n'a pas fait exprès. Un. Deux, il a juste fait ping, je te tape dessus. Mais c'était le premier en arrière à souffrir de ça. Puis les autres, en allant, en se rapprochant, ils ont été affectés. Le poison devrait normalement apparaître lors d'une autopsie, mais seulement si le médecin légiste a effectué les tests nécessaires pour le détecter.
C'est ça.
Si on compare avec ce qui est arrivé avec le groupe de randonneurs, on peut voir quelques similitudes et c'est très probable que ce genre de piège était présent à certains endroits de la montagne. Si on s'imagine, comme je disais, le scénario qu'il est à l'arrière, puis il l'a botté, puis toute la gang s'est rapprochée, ça se peut, puis que Valentina était plus loin.
Sais-tu, ça ressemble à quoi?
Ça ressemble un peu à une canisse.
OK.
Je vais vous montrer. Je mettrai une photo sur les réseaux sociaux, mais des fois, c'est semi-enterré. Fait que c'est ça qui... Vous allez voir la photo, là. C'est comme, mettons, un chien met sa bouche dessus puis il tire.
Mm-hmm.
Ou un ours ou un n'importe quoi. Fait que c'est comme enterré un peu. Fait que tu peux piler dessus puis le casser sans même t'en rendre compte, là, en pilant dessus.
Ouais.
Je pense qu'une théorie en lien avec un poison aérogène a beaucoup, beaucoup de poids.
Aérogène. Comme ça.
Aérogène.
Oui, dans l'air. Quelque chose qui est... Ouais, ouais, je suis moi tout, c'était ma première, mon premier instinct, mais là je trouve que celui-là fait beaucoup de sens, puis il est pas trop tiré des cheveux.
On n'est pas trop dans la conspiration, mais
c'est ça.
C'est quand même une maudite chance que Valentina n'ait pas été atteinte par ça, par exemple.
Si c'est ça.
Si c'est ça.
Mm-hmm. Ben en même temps, s'il était quelques mètres plus loin, là, c'est comme c'est vraiment niaiseux là, mais c'est dans l'air.
Mais quand même aller voir.
Ouais, mais après, elle a
Victoria.
Passé.
Non, elle est allée voir Victoria proche, puis Victoria l'a mordu. Fait qu'elle était quand même proche, mais est-ce que là, à ce moment-là, le poison était assez dilué dans l'air, puis là, ça passait d'une personne à l'autre que là, elle l'a pas eu?
Mm-hmm.
Là, on s'imagine les affaires, mais ça se peut que c'est ça aussi, ça se peut que c'est pas ça. Voilà pourquoi c'est un mystère.
Ouais, la contagion, c'est bien ben étrange.
Fait que, quelle théorie, selon vous, est la plus possible? Vous me l'avez un peu dit, là?
Bah oui, c'est l'armée ou le spray, là.
Le spray.
Croyez-vous que c'est vraiment arrivé comme Valentina l'a décrit, vous?
Peut-être un peu plus toned down, là, ça, j'y crois, à la théorie du
moins
post-traumatique. Là. T'es, elle a dû empirer peut-être que certains symptômes, puis ce qui concorderait avec tout ce que tu as dit. Là.
Mm-hmm. Ouais.
C'est peut-être un mix de tout, dans le fond.
Ouais.
Un mix de toutes les... Pas toutes les théories, là, mais...
Puis mettons que c'était pas ça, puis qu'il serait mort d'hypothermie, ben... Ça se pourrait aussi, mais là, dans ce cas-ci, elle aurait vraiment été post-traumatique dans sa petite tente qui est retournée plus bas. Puis, elle, tu sais, je veux dire, la fille, elle avait pas beaucoup mangé, elle avait pas beaucoup dormi. Mm-hmm. Elle était bien sous le choc en hypothermie.
C'est vrai, ça.
Tu sais, je veux dire. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'elles soient toutes tombées comme des mouches au même endroit, au même moment.
Ouais, ça, c'est sûr que ça ajoute un peu de.
Ça, les corps mentent pas. Tu sais, à peu près. 10 minutes, selon ses dires, c'est peut-être trop rapide. Peut-être que ça s'est passé en 40 minutes. Peut-être. Puis il y en a peut-être qui se sont juste évanouis puis qui sont morts d'hypothermie des heures
par
tard.
Après. Ouais. Ça, j'y ai pensé. C'est passé, ça se peut en maudit.
Ben,
qui ont tombé évanouis, puis là, ben là ça, le fait de plus bouger, qu'il avait fait froid,
mm-hmm.
puis qu'il avait neigé, puis qu'il avait été déjà un peu mouillé, ça n'a pas eu le temps de sécher. Là.
Ben, oui.
Il a fait froid. Ça, quand ça l'a fondu, ça. T'sais, mettons que ça a gelé pendant la nuit, vu qu'il avait neigé.
Mm-hmm.
Ils n'ont pas allumé de feu, ça n'a pas pu sécher hein, tant que ça. Là.
Ben oui. C'était humide, c'est pas long.
T'sais, ils sont restés avec la gang. Là. C'est pourquoi tu irais mourir plus loin.
Ouais.
Dans un sens. Là. C'est comme, en tout cas, c'est deep là, ce que je dis, mais tu sais.
Aujourd'hui, Valentina Utochenko a une famille et des enfants. Elle souhaite ne plus jamais parler de ce qui s'est passé. Valentina a dit: pensez-vous que je veux me souvenir de ce cauchemar? J'ai dû partir, changer toute ma vie. Je ne veux pas m'en souvenir. Ludmila était une instructrice de haut niveau et tout ce qui s'est passé n'était pas de sa faute. Alexander Kinjvinsky, le kayakiste ukrainien qui a remarqué Valentina dans les bois et qui lui a sauvé la vie, a dit l'avoir contactée à quelques reprises après les faits et qu'il a vu que tout ce qui lui rappelait la tragédie lui faisait du mal.
Ouais.
Fait qu'elle m'en ait arrêté, là. On saura probablement jamais ce qui s'est réellement passé durant cette randonnée dans les montagnes Kamar Daban. Le silence de Valentina, la seule survivante, ne fait qu'amplifier le mystère. Le fait que Valentina appréhende le fait de donner plus de détails sur cet incident le rend encore plus intriguant. Et c'est vrai.
Je la comprends en même temps si c'est vraiment un choc pour elle et qu'elle veut plus en reparler.
C'est
mais
sûr, ouais.
Il y aurait un petit côté de moi, je pense, puis là, je parle à travers mon chapeau parce que je suis pas dans ses bottines, mais qui voudrait donner plus d'informations pour clore le dossier pour les familles.
Oui, c'est vrai. Parce qu'on est encore en vie, ce monde-là. Là. Les oui. parents sont clairement sûrement encore en vie. Les frères, les soeurs, les...
C'est ça.
Les conjoints, peut-être, sont... Tu sais, 93, c'est pas si loin. Là.
Ça fait 30 ans, genre.
Qu'elle n'est pas vieille, la Valentina, mais j'y souhaite qu'elle se remette de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a vécu. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'elle en parle pour donner un peu de fermeture.
Mais en même temps, j'imagine, tu sais, elle l'a fait. Là. Qu'est-ce que tu sais, c'est ce qu'elle a dit. Puis elle peut pas t'inventer d'autres souvenirs que ceux qu'elle a.
Oui, parce que là, ça risque d'être distorsionné, comme on a dit.
Fait que dans un sens, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de plus?
Oui. Elle doit se faire tanner par des journalistes, des auteurs pour écrire un livre avec elle.
Oui. Oh. J'avoue que je la comprends. Là. J'en parle pas. Merci. Bye.
Ouais.
Tout ce qui a été dit, là.
Elle veut pas se faire déformer aussi ses propos.
Non, c'est ça, se faire dire des affaires qu'elle aurait pas dit.
Ça va rester un mystère.
Je la comprends.
Alors voilà. Et aussi, on a un nouveau petit segment avant de terminer qu'on veut initier. C'était mon idée en premier, OK? Je me vante. Mais je n'ai comme pas parlé, puis je l'ai laissé tomber. Puis là, Félix est arrivé avec ça lors d'un road trip. Puis il a dit, hey, on devrait faire ça. Puis j'ai dit, hey, ben oui, mon dit bonne idée. Fait que ça va être son petit segment perso qu'il va faire à chaque fin d'épisode. Je te laisse l'introduire plus en détail. Félix-Antoine, le micro t'appartient.
Ben, c'est pas obligé d'être toujours moi non plus qui le présente.
OK.
Donc, à chaque fin d'épisode, on va lire une fiche de personne qui est disparue au Québec avec des sources de la Sûreté du Québec. Donc, cette semaine, c'est Zachary Soucy. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Zachary Soucy, 16 ans, de Joliette. Il a été vu pour la dernière fois le 6 décembre 2023 vers midi sur la rue La Douceur à Joliette. Il se déplacerait à pied. Il pourrait se trouver autant à Montréal, dans Lanaudière ou ailleurs au Québec. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. La taille 1,78 m, donc 5 pieds 10, un poids de 160 livres. Cheveux bruns, yeux bruns. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un pantalon et un chandail noir, un manteau de cuir noir, une sucre rouge et noire et des souliers verts fluorescents. Donc, toute personne qui aurait aperçu cet individu est priée de communiquer avec le 911.
On va mettre une photo de Zachary Soucy sur les mêmes photos de l'épisode que je publie en même temps, puis les informations pour contacter la Sûreté du Québec.
C'est bien. J'aime ça.
Vu qu'on fait pas de cas québécois, mais on peut au moins faire ça.
Ouais, un peu de le reach qu'on est capable d'avoir.
C'est
là.
Ça, que les gens peut-être ont vu quelque chose ou savent quelque chose. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai hâte de vous lire... ce que vous pensez qui est arrivé selon vous? Est-ce que Valentina dit la vérité? Est-ce qu'elle pourrait avoir des raisons de mentir? Est-elle responsable? Et elle décide de tout mentir? Les a-t-elle empoisonnées? Nul ne le sait. Je suis partie sur une chaise. Mais c'est ça, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais j'ai hâte de vous lire sur les réseaux sociaux.
Ben oui.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Bye.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.